Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h39, l'after est là jusqu'à minuit, messieurs dames, avec Kevin Diaz, David Guzman, Maxime Chalot. Et le direct, c'est d'abord le tennis avec Roland Garros, Eric Salio et Djokovic face à Petchi Péricard.
Oui, Novak Djokovic qui est en train de construire sa qualification. Il a fait le plus dur, hein, en égalisant à une manche partout. 7-5 Petchi, 7-5 Djokovic, 4-1 pour le Serbe dans cette troisième manche. Et puis sur le court, Simone Mathieu, Pierre Gerber est à la bagarre face à Sonego. 1-7 partout entre les deux joueurs, mais l'Italien a le break dans le troisième. Et puis c'est fini pour Ksenia Efremova, 17 ans. Elle avait le wildcard, mais bon, elle est encore un peu tendre. Elle a perdu contre Sorana Chirtea.
À tout à l'heure, la F1, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc?
Ah bah c'est fabuleux là entre les deux pilotes Mercedes, parce que Antonelli avait trouvé l'ouverture, il avait dépassé Russell et là il vient de commettre une erreur au freinage de l'épingle tout au bout du circuit. Les deux hommes sont côte à côte là à plus de 300. Oh là là, on se touche. Ah oui, là on a sorti la hache de guerre là, hein, carrément. Donc les deux pilotes se sont frictionnés là à l'amorce de la dernière chicane. On a failli en mettre un dans le mur des champions, tu sais, c'est le mur que tous les pilotes viennent percuter à leur tour chacun. Et donc là, c'était chaud bouillant. Là, je pense qu'on est en train de dépasser un peu les limites. Bah, tu vois, Gilbert, on le disait, si on les laisse se battre, ces garçons-là, bah, ils demandent que ça. Donc, pour le moment, Antonelli est repassé devant Russell. À mon avis, ça va pas rester comme ça très longtemps. Je rappelle qu'on est au 25e tour et qu'on est toujours en pneumatique soft. Normalement, on aurait dû les changer.
À tout à l'heure. Pour quant au match en Italie, Ligue des Champions africaines, rien n'a bougé pour le moment. David Guzman veut nous parler de l'OM ce soir. Est-ce qu'on a un jingle, Guzman? Normalement, ouais. Oui.
C'est bon. Oh oui. En tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
Ça m'inquiète toujours un peu, moi. Les mecs qui disent ça, qui ont que ça dans la vie, je trouve ça toujours un peu inquiétant.
J'ai pas dit que j'avais que ça.
Je conseille d'aller voir un psy.
J'ai pas dit que j'avais que ça, mais j'ai dit que ça prenait une grande partie de mon esprit.
Ça et les chiffres.
Ouais, je l'ai fait parler, les chiffres. Mais c'est vrai que ça et les chiffres. Mais oui, non, alors la communication de l'OM. Pourquoi j'ai tenu à faire cet avis, puisque on a débattu notamment avec Kevin et Max en long, en large et en travers la saison sportive de l'OM. Mais moi, ce qui m'a interloqué depuis le début de saison, et d'ailleurs ça part du documentaire Ne jamais rien lâcher, qui était sur le papier et même le produit fini était excellent, un documentaire pour lancer donc la saison de l'OM qui montrait un peu les coulisses de la saison précédente. Et dans ce documentaire, une fois que je l'ai fini, j'ai été un peu interloqué dans la mesure où je me suis dit, quelle pression ils sont pas en train de se mettre, quel message ils ne sont pas en train d'envoyer. C'est-à-dire que tout le documentaire est tourné d'une autour de la notion d'institution et de deux, il a été monté de façon à ce que les protagonistes principaux, donc Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi, soient systématiquement dans l'affrontement, systématiquement dans le virilisme, et il y a un parti pris qui tourne autour de l'autorité, autour de la préservation de l'institution, autour de l'excès de communication qui, mine de rien, allait leur éclater à la figure lors de la première journée de championnat avec l'affaire Rabiot. Et je trouve que toute cette saison qui a été tourné autour de cette notion d'institution, cette notion d'autorité, cette notion de ne jamais rien laisser passer, elle a porté préjudice à l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'au moindre écart, la mesure n'était plus du tout de mise, puisque de toute façon, il avait été annoncé que rien n'allait être laissé passer. Et que ça a amené à une surcommunication, à une surjustification des décisions, à un excès d'autoritarisme qui s'est encore témoigné avec les nombreux retiros ou punitions collectives, appelez-les comme vous voulez. Et donc, d'une communication collective initiale, on en est venu à un chacun pour sa peau où tous les protagonistes ont communiqué pour défendre leur bilan. On a vu Mehdi Benatia, notamment dans le dernier podcast d'Aurélien Tchouaméni, Je Bridge, défendre son bilan dans les grandes largeurs. On a vu malheureusement Habib Bey, qui était pourtant prompt et rompu aux méthodes de communication beaucoup trop tôt défendre son bilan en conférence de presse. On a vu malheureusement un Pablo Longoria qui lui était hors jeu depuis l'épisode du tout corrupt, et je pense que ça a porté préjudice à l'OM, dans la mesure où même sur le plan institutionnel l'OM n'a pas assez joué, n'a pas joué son rôle. Donc moi, ce qui me dérange plus encore que la saison sportive qui est passable et le passage de Mehdi Benassia est satisfaisant, c'est le fait que trois excellents communicants, trois personnes compétentes, trois personnes qui sont normalement d'excellents communicants, très pédagogues, se soient enferrés dans une espèce de folie collective qui n'est pas nécessaire à l'Olympique de Marseille, qui est déjà un club extraordinaire de passion, dans une course à l'échalote de communication. Pour complètement perdre le fil. Donc
vous êtes d'accord. Je change juste que Rouli aujourd'hui a expliqué beaucoup de choses ont été sur ses réseaux sociaux ont été dites sur le groupe. Certaines très éloignées de la réalité, des situations qui, au lieu de nous unir, ont créé des bruits inutiles entre nous, ouais. Entre nous et les supporters.
Oui, mais de toute façon.
Dit-il donc en gros tout ce qui se dit, voilà, infuser le vestiaire.
Je suis entièrement d'accord avec toi, David. Bon, évidemment, on va pas revenir sur la saison sportive, on en a assez parlé, mais c'est vrai que par rapport à la communication, il y a tout qui a été de travers. Alors, est-ce que ça n'a pas été faussé par une espèce de guerre d'ego entre De Zerbi, entre Mehdi Benassia, entre Habib Bey, entre Pablo Longoria? Enfin, il y a eu quand même des prises de position à un moment donné où c'est vrai qu'il aurait peut-être dû avoir un petit peu de calme, et c'est en fait la grosse problématique de cette saison. Je me souviens de la sortie de Mehdi Benassia. Encore une fois, Mehdi Benassia, moi, je le trouve très, très intéressant. Je trouve qu'il a énormément de qualité. Sa communication, je suis contre sa communication. Je repense évidemment à sa sortie après l'élimination en Champions League contre le club de Bruges, à un moment donné où en championnat ça allait encore très bien. Finalement, ça part de là un petit peu quand tu regardes les problèmes sportifs.
Enfin, même d'avant.
En tout cas, c'est à partir de là que ça a commencé à plonger. Après, évidemment, il y a cette défaite en Supercoupe. Et puis derrière, t'as évidemment la défaite, la déculottée contre le Paris Saint-Germain. Mais tu vois, cette prise de position de Mehdi Benassia à un moment donné où justement les joueurs, j'ai été joueur. Donc c'est vrai que quand t'as des dirigeants qui calment un petit peu la chose, et on fait le parallèle avec Pierre Sage, on l'a dit, à un moment donné où à Lens ça gagnait un peu moins, et ben il est resté là. En fait, c'est le calme dans la tempête. Et ça a été le cas avec Mehdi Benassia qui a fait cette sortie-là. Il y a eu cette sortie après Lorient. Dans le fond, je le répète encore une fois, il avait raison. La forme, elle était catastrophique. Ça a été catastrophique de la part d'Habib Bey, en effet, de justifier son bilan très tôt dans la saison en disant on est arrivé, on était quatrième, maintenant on est troisième. Le problème, c'est que quand ils sont descendus septième, c'était difficile de défendre son bilan. Et puis bon, après, évidemment, on va pas revenir sur le départ de Zerbi et le départ de Pablo Longoria. Tout ça pour te dire, pour résumer mon analyse, je pense qu'il y a vraiment eu un problème d'ego cette année. Et si l'Olympique de Marseille veut repartir sur de bonnes bases, des bases saines l'année prochaine, je pense que dans l'équipe dirigeante, il va falloir trouver une symbiose, déjà évidemment sur le terrain entre guillemets, mais surtout dans les médias.
Il y a JP juste sur WhatsApp qui nous dit le problème de l'OM, c'est que chacun joue sa partition en coulisses. D'ailleurs, il dit sur le fameux The Bridge dont j'ai parlé, on retient que la phrase de Benatia sur le PSG, mais il dit que Benatia a aussi expliqué qu'il y a des gens au club qui sont là depuis 20 ans et qui font ce qu'ils veulent et que ça crée des problèmes. Bon, ça c'était le discours qu'il tenait déjà l'an dernier avec Gloria, sur il faut faire le ménage, tout ça. Kevin.
Bah, franchement, la saison de l'OM, je pense qu'elle pourrait être étudiée dans un cas d'une grande université américaine pour la gestion, ou en tout cas le manque de gestion ou la mauvaise gestion du management sportif depuis tout en haut.
Pourquoi une université américaine ? Tu crois que les universités françaises sont pas aussi bien ?
Non, classement annuel, je crois que c'est bizarre.
Parce que souvent, ce genre d'études.
C'est une grande université américaine. Comme si, tu sais, les Américains, ils faisaient des trucs.
C'est un Américain, Kevin. Hein,
au cœur. Ouais, un petit peu. Bah, j'étais à l'ambassade la semaine dernière pour mon passeport. Ouais. Moi, demander passeport ou visa? J'ai hésité.
Green card? Green card directement?
J'ai été pour le visa. Je pense que aujourd'hui, aujourd'hui c'est attends, je crois que Jean-Luc là
il tape sur la table. Il y a une Mercedes
Non, je me permettrai pas, mais
il y a une Mercedes à qui manque un morceau là.
Malheureusement, oui, c'est George Russell qui a eu un problème mécanique après cette bataille absolument fantastique, hein. J'y reviens pendant les 30 tours et apparemment la Mercedes n'a pas tenu, là il a été obligé d'immobiliser sa monoplace et donc voilà, il se met derrière les grillages et il y a une neutralisation virtuelle safety car, on va regrouper.
C'est pas
donc
un accident avec Antonelli, hein.
Non, en fait, ils sont frictionné quand même deux fois. Hein. Est-ce que c'est consécutif ou pas? Mais
ça, c'est une addiction, Jean-Pierre Jabouille, ça, non? J'ai l'impression que.
Non, mais pour finir sur l'OM aujourd'hui, c'est vrai que c'est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, je ne suis pas d'accord sur le documentaire. Moi, pour moi, le documentaire, j'avais apprécié suivre ça de l'intérieur. Je remets toujours, et je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, parce que j'adore le titre, et je le dis souvent, le titre du documentaire de Luis Enrique, vous ne pouvez pas comprendre. Hein, c'est à peu près ça, là. Je vais pas vous la faire en français parce que c'est un peu plus vulgaire en espagnol, mais en gros c'est une expression qui veut dire ça. Je pense qu'on peut pas vraiment comprendre ce que vivent ces mecs-là avec cette exposition. Moi, je suis directeur sportif d'un petit club amateur et déjà il y a un peu d'exposition, il y a un peu de pression. Alors eux, ils sont dans un monde où forcément ça doit pas être facile de pas perdre les pédales. Moi, je pense que les entraîneurs ne devraient pas parler avant chaque match comme ça et après chaque match.
Ouais, ça fait partie du football.
Ouais, mais pour moi, c'est trop. Aujourd'hui, dans ce genre de club, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Alors certains m'ont compris au contraire. Non, je parle pas des conférences de presse, je parle de l'exposition. Je pense que les médias aussi, on peut faire notre autocritique parce que c'est facile de toujours taper sur les clubs, sur les entraîneurs, sur les directeurs sportifs ou les présidents. Mais il y a un moment, aujourd'hui, on juge. Et c'est Daniel qui le disait il y a quelques jours et je suis complètement d'accord avec toi. Nous-mêmes, les supporters, les médias, on continue de juger l'OM comme si c'était encore un vrai prétendant au titre de champion de France. Et aujourd'hui, moi, je le vois dans d'autres pays, hein, je vais pas refaire ma tirade, mais dans beaucoup de grands pays de football, notamment des années 90, que ce soit en Italie, en Turquie, en Écosse, au Portugal, où bah, il y a souvent des gros passages à vide de certains clubs, mais notamment parce que l'attente et l'exigence, notamment médiatique ou des supporters, est complètement démesurée par rapport à ce qui se passe en interne au club. Mais c'est difficile, je pense.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait quand même deux, parce que Longoria, il était hors jeu.
Au début, il était pas hors jeu.
Depuis le tout corrupt, en fait, sa voix était inaudible, quasiment. Okay. Et en fait, les deux personnages principaux du documentaire, justement, c'était deux personnes qui connaissent quand même l'environnement marseillais. Tu vois, De Zerbi se targue d'avoir appréhendé cette ville, d'avoir appréhendé la folie de cette ville, dans le bon sens du terme, d'avoir appréhendé la passion de cette ville. Et je ne comprends pas la surcommunication quand tu sais à quel point elle peut enflammer. Tu vois, c'est ça que je ne comprends pas. La surcommunication. Est-ce que tu as entendu Andrea Berta, Arsenal, parler autant? Jamais. Ou Goviana, City? Jamais.
Parce que c'était dans juste un instant, on continue le débat avec Florian au 32-16. Sans oublier les directs, bien sûr. On se retrouve tout de suite.